lire la parole de Dieu, je vous invite à prier. Dieu notre Père, ouvre nos âmes maintenant à ta parole éternelle. Dans les contingences de nos vies, nous peinons parfois à tenir ferme, à tenir debout. Que ta parole ce matin nous guide et nous affermisse dans notre foi. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour nous aider à la comprendre et à la faire nôtre, individuellement et communautairement. Qu'elle vienne nous toucher, nous enseigner et nous encourager là où nous en avons besoin. Bénis en ce jour tout ton peuple réuni ce matin à l'écoute de ta sainte parole et inspire celles et ceux qui prêchent. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Bonjour. Ce matin, ne soyez pas surpris, j'ai une introduction au texte et puis après un petit passage pour expliquer la fin. Donc ne lançons pas la musique trop vite. Ça va la sono, ça résonne pas trop? Je parle un peu fort des fois. Très bien. Donc nous avons une seule lecture ce matin. Elle se trouve dans le livre des Apôtres, à l'avant-dernier chapitre. Elle raconte la tempête et le naufrage du bateau qui transporte l'apôtre Paul à Rome. Pour vous situer le récit, quelques mots de contexte. Quelques chapitres plus tôt, Paul a été arrêté dans le temple de Jérusalem. Il a été accusé par les Juifs d'être un agitateur et de donner un enseignement hérétique en souillant le lieu sacré qu'est le temple. Saisi par la police romaine, il est mis en prison. Puis commence un procès où Paul passe des tribunaux juifs aux tribunaux romains locaux. Parce qu'étant de citoyenneté romaine, Paul a le droit d'en appeler à l'empereur. Et c'est ainsi qu'il est mis dans un bateau à Césarée, une ville côtière, parmi d'autres prisonniers, en direction de Rome, pour comparaître devant l'empereur romain, sous la responsabilité d'un nommé Julius, officier de la cohorte impériale. La navigation s'avère dangereuse, et arrivé en Crète, Paul conseille à l'équipage de ne pas repartir. Mais ils repartent néanmoins. Et voilà qu'un vent violent s'abat sur le bateau et l'entraîne à la dérive. Nous lisons donc dans les Actes, au chapitre 27, à partir du verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours, et la tempête a été si forte que finalement nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » La quatorzième nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Avant que le jour se lève, Paul a encouragé tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans la tente sans manger, sans rien prendre. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir dit cela, il a pris du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il l'a rompu et s'est mis à manger. Alors tous ont repris courage et ont eux aussi mangé. Nous étions 276 personnes en tout sur le bateau. Une fois rassasiés, ils ont allégé le bateau en jetant le blé à la mer. C'est la fin du texte biblique. Je vous explique encore que les 6 derniers versets racontent comment ils aperçurent un golfe et font échouer le bateau sur un banc de sable. Ils ont alors tous nagé ou se sont agrippés à des planches ou à des débris du bateau pour rejoindre la terre ferme. Et tous, sans exception, soldats, prisonniers et équipage du bateau, sont parvenus sains et saufs sur l'île qui était Malte. Amen.
Alors exceptionnellement, ce matin, je n'ai pas pris le ou les textes que nous propose le lectionnaire suisse. Vous m'entendez ? Alors j'ai l'impression que là-bas c'était un peu fort et puis ici c'est un peu faible. Ça va comme ça ? Il faut que je sois bien proche. Je disais donc que nous n'avons pas pris ce matin le texte du lectionnaire parce que par un hasard des choses, si tant est que le hasard existe, nous avons partagé le texte que nous avons lu mardi soir lors du partage biblique et il a été convenu que ce serait le texte de la prédication aujourd'hui. Ça n'était pas du tout prévu. Alors, ce qui ressort de cette prédication, frères et sœurs, c'est ce qui est ressorti de notre partage mardi. Merci aux participants pour tous leurs apports stimulants. Et bien évidemment, peut-être que ce texte nous a particulièrement... parler parce que vous allez vous-même entendre les résonances qu'il peut avoir avec notre vie d'église actuelle et particulièrement le contexte de nos assemblées paroissiales. Deux assemblées en 15 jours, c'est pas tous les jours que ça nous arrive. Alors, on est un peu là-dedans. Gardons en tête, par rapport à ce récit, que le but du voyage de Paul, si vous avez bien écouté l'introduction, le but du voyage de Paul, c'est d'arriver à Rome pour qu'il puisse y annoncer l'Évangile. C'est une promesse que le Seigneur lui avait faite 2 ans avant ce naufrage. Et comme toujours, Dieu a son temps. C'est un récit, comme on l'a entendu, plein de détails, qui nous invite sûrement à une lecture symbolique, décoller un petit peu de tout ce qui concerne la navigation et les éléments et dire mais au fond qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce que ça peut nous dire. Alors je vous propose de retenir 3 enseignements pour nous ce matin de ce texte. Ce texte extraordinaire qui s'est imposé comme le texte, le récit des actes. Précisons aussi que Paul n'en est pas à son premier naufrage, il en a déjà vécu 3. Auparavant, mais celui-ci seul est aussi détaillé. Alors, le premier enseignement, frères et sœurs, il est, et je vous le dis comme ça, sans autre, que la providence divine est la seule chose sûre sur laquelle on peut compter. À l'issue de ce récit chaotique, qu'est-ce qu'il reste ? Tout se perd. Le bateau, les cargaisons, les agrès, seule l'œuvre de salut de Dieu s'accomplit pour les humains. Alors on pourra dire tout ce qu'on voudra, Ce ne sont pas les marins qui ont réussi à sauver le bateau de son naufrage. C'est la main de Dieu, la main invisible de Dieu. Dieu avait son plan pour Paul, bien avant les événements, pour que son évangile parvienne aux extrémités de la terre. À l'époque, Rome, c'était les extrémités de la terre par rapport à Jérusalem, et il a permis que cela se fasse par des voies bien étonnantes. Oui, la vie des prophètes, la vie des serviteurs de Dieu, la vie des pasteurs, la vie de l'Église et des chrétiens n'est pas une trajectoire toute droite et paisible. Mais au final, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Et quelqu'un a souligné mardi que c'est toujours après coup qu'on mesure le type de tempête qu'on a traversée, n'est-ce pas ? Et qu'on reconnaît la providence divine qui a été à l'œuvre. Alors il est bon de, par moments, regarder en arrière et de se dire « Dieu était là et ce n'est en fait pas moi qui ai fait qu'on en soit là aujourd'hui. » Donc providence. Deuxième chose, c'est que c'est une vision spirituelle, le fait d'avoir une vision spirituelle, c'est ça qui nous sort du pétrin. Que s'est-il passé dans ce récit ? Paul a averti, quand ils étaient aux alentours de Crète, il a dit « on ferait mieux de ne pas partir, ça sent pas bon ». Il n'était pas marin de profession, mais il avait fait plusieurs traversées. Et puis, il avait l'Esprit Saint qui lui a soufflé quelque chose, probablement. Le récit ne le dit pas, mais on le suppose. Il n'a pas été écouté. Julius, l'officier romain responsable de ce voyage, a préféré se fier aux spécialistes, les marins. Eh bien, bien mal lui en a pris. C'est comme ça, on se confie en l'homme, en ses connaissances scientifiques de plus en plus poussées, en sa technologie de plus en plus pointue, en son expertise organisationnelle de plus en plus sophistiquée. L'Église elle-même le fait. Il y a des statistiques. On le sait, c'est des chiffres. Il y a de moins en moins de chrétiens, il y a de moins en moins de protestants, il y a de moins en moins de gens qui prient, il y a de moins en moins de pasteurs. On ne peut rien dire face à ça. C'est les stats, c'est les chiffres. Il y a des graphiques qui démontrent que la situation actuelle ne peut pas s'améliorer. Il y a des chiffres. Les dotations de l'État baissent et ça va sans doute continuer. Alors on fait des réformes. Mais au fond, est-ce que c'est ça qui va sauver l'Église ? Et est-ce que l'Église a au fait besoin d'être sauvée ? Au milieu des peurs, de la panique, ça fait quand même des jours et des jours qu'ils sont dans cette tempête, et je ne sais pas si tout d'un coup il fait sombre, on est un peu dans une ambiance comme ça de nuit et de la pluie menace, eh bien au milieu de cette peur, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une parole qui surgit. Au milieu de la tempête surgit une parole. Celle de Paul, reçue de Dieu, à travers un ange. Paul a une vision très claire. Et c'est elle, c'est cette vision qui va orienter le destin de l'équipage. Alors on peut dire, oui, ils ont été sauvés parce qu'ils ont délesté le bateau de ci, de ça. D'accord. Mais qui se montre le capitaine du bateau à ce moment-là ? C'est Paul. Et avec quelle puissance une parole reçue, qui paraît folle par rapport à la situation. Mais c'est la confiance en la parole entendue et en la promesse reçue du Seigneur qui va faire que Paul garde le cap et tout l'équipage avec. Alors, c'est certainement ça, la sagesse selon Dieu. C'est de mettre sa confiance en lui, en sa parole, et non sur nous, nos capacités, notre intelligence, nos calculs, nos projections. Proverbe 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » La sagesse, selon Dieu, c'est de s'attendre et s'appuyer sur Dieu dans toutes les dimensions de notre vie, et même quand la situation est critique et paraît désespérée. C'est de vivre et d'orienter sa vie en fonction de Dieu. Alors ça n'a rien à voir avec la sagesse, n'a rien à voir avec le statut social, avec l'expérience qu'on peut avoir, désolé pour nos aînés, avec le niveau intellectuel. On peut être jeune et petit et faire un choix et agir avec sagesse. À la fête de la paroisse, il y a 2 semaines, nous avons entendu, même vu, mis en scène l'histoire de David face à Goliath. David qui a agi avec sagesse, qui était complètement folle. Saül lui a dit « Mais tout petit comme tu es, tu vas te faire écraser par ce géant. » Eh bien, David savait en qui il comptait. Il a su en qui il a mis sa confiance. Il était spirituellement ancré. Il avait une vision. Donc, frères et sœurs, s'ancrer spirituellement et avoir une vision spirituelle pour guider le bateau. Et puis le troisième point, c'est que on constate en définitive que le désir de Dieu, à la fin de cette tempête, c'est que tous soient sauvés. Et le texte souligne à plusieurs reprises « tous ». Il n'y a pas un seul homme, je ne pense pas qu'il y avait des femmes sur le bateau, mais je ne sais pas, il n'y a pas une seule personne qui a péri. Alors certains, on a fait des coupes dans le texte pour pas que ce soit trop long, mais certains ont voulu sauver leur peau, les marins ont voulu quitter l'équipage pour se sauver eux-mêmes. Paul a saboté ce projet en disant « non, non, tout le monde reste sur le bateau ». Eh bien, le projet de Dieu, c'est que les humains soient sauvés, et même si cela doit être au détriment du bateau. On a lu texto que l'ange dit à Paul « seul le bateau sera perdu ». Alors là, on se demande, en fait, le bateau, symboliquement, qu'est-ce que c'est ? Alors, on peut penser que c'est l'Église. Alors, frères et sœurs, l'Église, ne l'oublions jamais, est avant tout le corps du Christ, composé de membres. Mais elle ne doit jamais devenir une idole. L'Église, quand elle devient un système, une institution qui se suffit à elle-même, un gros bateau qui fonctionne, elle n'est plus Église. Elle est ce que le théologien Karl Barth appelait « forme d'Église ». Il y a l'Église et il y a la forme d'Église. L'Église est avant tout le corps du Christ, et elle ne l'est, elle n'est Église que si elle est constituée de membres vivants et vibrants pour le Seigneur. Elle n'est Église que si elle consacre l'essentiel de son énergie et de son temps pour vivre et annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, et non pas pour gérer son fonctionnement et se soucier de son lendemain. C'est un peu dur ce que je vous dis. Je suis loyale moi-même à mon institution, à mon Église, et je suis pour que les institutions vivent. Mais aujourd'hui, nous nous laissons interpeller par la parole pour essayer de tirer une substance spirituelle de ce qu'elle nous dit. L'institution, le bateau, c'est un moyen, ne l'oublions jamais. Ce n'est pas une fin en soi. Elle peut mourir. Finalement, ça importe peu à Dieu. Mais ce qui lui importe avant tout, c'est que la communauté soit sauvée. Et on parle ici d'un salut de sauvetage en mer, et aussi du salut spirituel, vous l'avez compris. Je pense que cela peut nous donner à réfléchir et à nous aider à élever notre regard face aux défis qui sont les nôtres. Mais le bateau, c'est aussi plus largement le monde. Le monde dans lequel nous vivons, dans son organisation humaine, dans ses gouvernements, dans ses lois, dans sa technologie, etc., qui peuvent tous aussi devenir une idole. Tout cela, n'oublions jamais que ce sont des moyens et que ce que Dieu veut, c'est le salut de l'humanité, des êtres humains. On a vu dans le récit que la communauté du bateau est une communauté bien disparate et bien bigarrée. Il y a des marins, il y a des soldats romains, il y a des prisonniers. C'est un peu à l'image de l'humanité. Elle est composée de toutes sortes de vies, de destins, de gens, de situations. Eh bien, Dieu veut le salut de tous. Et ce qu'il leur demande, c'est d'écouter la parole qu'il leur adresse et de s'y soumettre. Trois choses donc, pour récapituler, frères et sœurs, la providence divine est la seule chose sûre sur laquelle on peut compter. La vision spirituelle est ce qui nous sortira du pétrin. Et le désir profond de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Alors, c'est grâce, on peut le reconnaître dans ce récit, et cela peut nous inspirer, c'est grâce à ce témoin du Christ extraordinaire, Paul, que le bateau, figure de l'Église, figure du monde, figure de l'humanité, qui est menacé, reçoit le salut. Nous sommes, nous aussi, appelés à être des témoins. Alors, tout le monde n'est pas Paul, bien sûr. Mais on est appelé, comme lui, à rester debout dans la tempête, à vivre de la promesse de Dieu, à écouter sa parole et à la partager et en témoigner. C'est ça, être lumière du monde. C'est ça, la mission de l'Église dont nous sommes membres et à laquelle nous avons répondu avec joie à notre baptême. Alors Paul, ici, est un exemple dont on peut s'inspirer. Pour moi, en tant que pasteur, évidemment que ça m'inspire. Qu'est-ce que Paul, en synthèse, nous laisse comme exemple ? Eh bien, parce qu'il a reçu la parole et la promesse, il a tenu bon. Il a eu la foi, c'est-à-dire la foi confiance en la providence divine, malgré les éléments contraires. Rien du tout ne pouvait ne donner un signe de salut dans cette histoire. Eh bien, Paul, simplement au bénéfice d'une parole, a tenu bon. Il a marché par la foi et non par la vue, pour reprendre le thème de notre camp de marche. Il a eu de l'amour pour ses compagnons de voyage et pour tous. C'est tous qui seront sauvés, et pas juste ceux dont la tête lui revenait ou qui étaient sympas avec lui ou que sais-je, tous. La grâce de Dieu pour tous est quelque chose qui nous échappe. Et il a eu l'espérance pour les décourager. Il a espéré pour eux. Alors voilà la foi, l'espérance et l'amour dont Paul a témoigné. Je propose que nous en fassions notre programme aussi individuellement et en tant qu'Église. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on soit dans la tempête, quelles que soient les attaques extérieures, tenons bon, Dieu est à l'œuvre. Il aime son Église, il aime avant tout les humains qui la constituent. Amen.